BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group. Alors c'est un sujet dont on parle souvent, hein, le lien entre la banque et la transition durable. Alors la banque déjà pour elle-même, qu'elle fasse sa transition, mais aussi comment elle accompagne ses clients dans cette transition durable. Et pour en parler avec nous, Anne-Sophie Castelnau, bonjour.
Bonjour.
Anne-Sophie, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice développement durable pour le groupe ING. ING, on le rappelle, je donne quelques chiffres, 61 000 employés, présents dans 40 pays et banques particuliers et entreprises. Et puis avec nous, Amine Benayad. Bonjour.
Bonjour.
Amine, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé au sein du BCG, responsable du Centre d'expertise climat et sustainability pour BCG Paris. Alors Anne-Sophie, on parle beaucoup évidemment de transformation durable pour les entreprises. Beaucoup, on le dit souvent ici, ça change les business models, ça transforme pas mal de choses dans tout un tas d'industries. L'industrie bancaire, on commence à comprendre un petit peu pourquoi, mais le but c'est de financer les entreprises justement qui vont vers cette transition durable. C'est ça le premier rôle, la première mission.
En résumé, c'est ça. Donc effectivement, ING s'est fixé comme mission de financer une croissance qui soit une croissance ayant un impact social et environnemental positif. Et effectivement, quand on parle du climat, on regarde le climat de façon holistique. Mm-hmm. On regarde d'abord notre propre empreinte carbone, et ça, cette empreinte-là, on la gère. Hein. C'est concrètement les immeubles qu'on occupe, c'est les voyages de nos collaborateurs, sont également l'électricité qu'on utilise, et ça, on a vocation à réduire les impacts carbone.
Ça, comme une entreprise traditionnelle.
Comme une entreprise traditionnelle. Mais en fait, là où on a le plus d'impact, c'est avec les financements qu'on accorde à nos clients. Donc c'est ça qu'on va regarder, parce qu'en fait, associé à ces financements, il y a énormément de carbone. Et donc on a identifié les 9 secteurs finalement dans notre portefeuille qui sont les plus impactants pour l'environnement. Et pour chacun de ces secteurs, on a défini des ambitions de réduction des émissions associées. Et donc ce qu'on fait, c'est concrètement, on engage avec les clients de ces différents secteurs et on s'assure qu'eux-mêmes sont dans une direction de transition alignée avec la nôtre et on va financer cette transformation. Donc ça veut dire par exemple qu'on ne finance plus de fabrication d'électricité à base de charbon, mais on va financer beaucoup plus de renouvelables. Donc vraiment des engagements très forts à faciliter cette transition.
Et donc ça c'est des engagements forts, j'imagine, menés toute la sortie que l'on doit, avoir de ces énergies fossiles, de tout cet environnement. Est-ce que ça veut dire que, avec des entreprises, certaines qui sont déjà très très impactantes parce qu'elles utilisent beaucoup d'énergie fossile jusqu'alors, il faut investir davantage, il faut les aider à investir davantage?
Absolument. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, on ne finance pas que des choses qui sont déjà complètement verte, comme on dit parfois, mais qu'on finance effectivement une évolution vers une direction qui va dans le bon sens. Sortir complètement de certaines industries aujourd'hui serait prématuré, on en a besoin, mais en revanche, s'assurer qu'il y a une accélération de la transformation de ces entreprises est clé.
Amine Benayad, comment, du BCG, comment ça s'est, l'engagement des banques a évolué, je le disais, on a fait plusieurs émissions dans ce domaine-là, et puis on voit évidemment, alors ça s'accélère, bien entendu, mais pour vous, est-ce que vous avez remarqué ça aussi? On avait des engagements, on se fixait des objectifs, et puis là, ça y est, on est rentré dans le concret, on déploie.
On voit effectivement une réelle accélération. Si on prend un peu de recul, les banques et la transition, c'est pas nouveau. Ça fait maintenant 10, 15, 20 ans que plusieurs banques, ING, mais nos champions français excellent aussi dans ce domaine, financent les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire. Ce qu'on a observé il y a 3-4 années, c'est plutôt une vague d'engagement holistique. Donc je suis une banque, je m'engage sur toute mon empreinte, que ce soit l'empreinte directe ou l'empreinte indirecte. Donc là, probablement un exemple parlant, c'est l'Alliance bancaire pour le net zéro, qui a été créée en avril 2021 avec 43 banques fondatrices, dont 3 banques françaises, et qui aujourd'hui est représentée par 129 banques. Donc là, en termes d'engagement, on a à peu près 41% des actifs bancaires mondiaux qui sont représentés dans cette alliance. Quand on s'engage dans cette alliance, pour rester sur cet exemple, on s'engage non seulement à devenir net zéro, donc neutre en termes d'émissions carbone en 2050, mais aussi on s'engage à, pour casser l'effet tunnel, à donner des engagements pour 2030 sur les secteurs dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure. Ce qu'on a remarqué, Frédéric, c'est que depuis l'année dernière, et notamment autour de la COP, c'était l'un des grands thèmes de la COP, c'est c'est très bien de s'engager, maintenant passons à l'action, oui. Passons à l'implémentation. Et donc là, ça continue d'être un peu le leitmotiv des banques. C'est, on a tous ces engagements-là, maintenant comment on honore ces engagements, comment on passe à l'action.
Et comment on parle chiffres aussi, Anne-Sophie Castelnau d'ING, parce que là, tout ça se chiffre en dizaines de milliards.
Voilà, nous l'année dernière, on a contribué à mobiliser 100 milliards à destination de la transition, donc soit sous notre propre bilan, avec des financements qui ont vocation à redonner de la valeur à des clients qui se fixent des objectifs, et quand ils atteignent ces objectifs, ben ils ont concrètement un bénéfice sur le prix qui est payé, ou alors à travers notre rôle d'intermédiation sur les marchés financiers, où on les accompagne pour lever, par exemple, des émissions obligataires vertes qui leur permettent également de délivrer un certain nombre de progrès en la matière.
Et votre rôle, en ce sens, c'est pas juste de dire, de contrôler qu'ils répondent bien aux objectifs là, de transition durable pour leur accorder des financements à des meilleurs taux, choses comme ça, c'est vraiment même de les accompagner, enfin de structurer même avec eux leur offre et comment ils vont, tranquillement, je sais pas, mais en tout cas accélérer leur transformation.
Voilà, alors souvent c'est pas tranquillement, effectivement c'est des transformations qui sont profondes, mais notre rôle effectivement c'est de pouvoir vraiment les conseiller dans cette direction, et notre organisation par secteur est bien adapté à cette mission-là.
Alors je disais tout à l'heure, ING c'est les entreprises et les particuliers, mais les particuliers aussi vous les
Les
vous
particuliers les également, en fait on a un gros portefeuille de crédit immobilier en particulier à travers le monde, et ces clients-là on les accompagne de plus en plus avec des solutions à la fois pour leur permettre l'acquisition de leur logement et en donnant là également une incitation pour l'acquisition de logements qui soient déjà performants sur le plan énergétique, mais également pour la rénovation. Et de plus en plus, c'est ça qui est en jeu, c'est de s'assurer que ce portefeuille immobilier, il se rénove pour que, à terme, les émissions correspondantes soient le moins impactantes.
Surtout avec toutes les décisions qu'on a entendues encore il y a quelques jours sur pour revendre un bien, il faut qu'il réponde
absolument, puisqu'aujourd'hui en France, on ne peut pas louer désormais un bien qui a un label G, et donc c'est un accélérateur très
ça
fort.
C'est même renforcé pour certains, pour certaines ventes de, alors je crois que c'est les maisons, surtout les appartements,
absolument.
Ça reste encore préservé. C'est compliqué aussi quand même, parce qu'en ce moment on parle, alors il suffit de, d'être regarder les actualités entre le contexte d'inflation, de pouvoir d'achat, le contexte ukrainien. Est-ce que c'est le meilleur moment pour faire tout ça ?
Alors effectivement, on a un contexte international et géopolitique qui est très mouvant, c'est sûr, et ça donne lieu à certaines, je dirais, perturbations, très clairement. Quand on a été confronté à la crise énergétique cet hiver, ça a donné lieu, par exemple, certains États ont décidé de redémarrer des centrales à charbon, ce qui est, je dirais, assez dramatique. Mais en même temps, l'augmentation du prix de l'énergie a donné lieu à une prise de conscience, qu'il s'agisse de la part des entreprises certaines fois, mais surtout de la part des particuliers, sur ce besoin de mieux gérer son énergie. Donc, on sent qu'il y a une phase de rénovation qui s'est accentuée.
Et puis, on pousse les gens à réfléchir un peu plus,
c'est-à-dire
ne vous laissez plus mener tout ça, parce que la situation devient complexe quand même, Amine.
C'est un casse-tête pour les banques, parce que ce soit les régulateurs, les investisseurs, la société civile, et puis toute la macroéconomie et la géopolitique, ça fait beaucoup de variables à gérer en même temps. Et ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est qu'on parle d'une véritable transformation là auxquelles font face les banques. Donc, quand elles se décident et qu'elles disent « je vais mettre à jour non seulement ma stratégie, mes politiques, mais je vais changer la façon avec laquelle opèrent mes forces de banque, opèrent mes équipes de risque, mes équipes de finance, ma technologie, mes données », c'est difficile tous les 6 mois de se dire non, finalement on va changer de cap. Et donc ça, c'est le dilemme auquel font face les banques en ce moment, sur lequel Anne-Sophie a parlé.
Et vous parliez des régulateurs, ils ont évidemment un rôle à jouer dans ce domaine, Anne-Sophie Castelnau.
Alors effectivement, les banques peuvent faire beaucoup de choses, mais les banques dépendent d'abord de leurs clients, qui doivent décider d'investir et pour qu'on puisse les financer. Mais les régulateurs jouent un rôle clé dans l'accompagnement de ces évolutions. C'est vrai que on l'a vu, ces nouvelles réglementations pour les crédits immobiliers, pour l'immobilier par exemple, sont un facteur de prise de conscience, mais également pour les entreprises des nouvelles réglementations qui obligent à faire beaucoup plus de reporting en matière climatique sont aussi des choses qui permettent de vraiment faire évoluer les mentalités et nous permettent, nous, d'avancer avec nos clients plus efficacement.
Oui, puis d'un point de vue français, d'un point de vue européen et d'un point de
absolument. Vue européen, donc nous, on appelle de nos voeux, effectivement, des réglementations les plus européennes possibles.
Et on a besoin d'alignement des indicateurs.
Exactement. Vous avez raison, Frédéric, parce que quand on est une banque universelle et quand on opère en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie, les régulateurs ne demandent pas forcément la même chose. Donc ça, sans parler des standards de place, on a parlé de l'alliance bancaire pour le net zéro tout à l'heure, qui, elle, demande ses propres indicateurs définis à sa manière les secteurs. Donc là, c'est un autre casse-tête auquel font face les banques. Et le BCG a mis en place un centre, un observatoire de tout ce qui est réglementation et tout ce qui est loi, parce qu'il y a aussi maintenant les États qui s'en mêlent. C'est à peu près une cinquantaine de personnes et ils sont vraiment très très occupés.
Et très rapidement, Anne-Sophie Castelnau, on a parlé de l'énergie, mais derrière il y a plein de choses. On a entendu Emmanuel Macron qui parlait d'un plan eau. On parle de biodiversité aussi. Enfin voilà, il faut agir dans tous ces. Enfin, il y a plusieurs plans sur lesquels il faut agir.
Absolument. Donc la biodiversité, ça recouvre beaucoup de choses. C'est l'eau, c'est les déchets, c'est la déforestation, etc. Donc c'est des choses effectivement qui étaient très intégrées déjà dans nos politiques de crédit, mais sur lesquelles on accélère. On a par exemple rejoint un groupe de travail sur le plastique, sous l'égide des Nations Unies, qui a vocation à définir finalement qu'est-ce que c'est que les bons plastiques et comment, pour toute la chaîne de valeur, on doit désormais utiliser ce type de matériaux.
Et ça veut dire s'appuyer sur des données scientifiques, sur.
Travailler ensemble avec
des sociétés, des cabinets de conseil, vos clients, vos experts.
Tout à fait. Et effectivement, s'appuyer sur la science, c'est le postulat de base. Notre approche est basée là-dessus. Et on travaille avec des gens comme, effectivement, on utilise les rapports du GIEC ou les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie pour arriver à ces directions.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Donc, le rôle des banques dans la transition durable. Et donc, ce témoignage d'ING avec vous, Anne-Sophie Castelnau, directrice du développement durable pour le groupe ING. Merci aussi à Amine Benayad, directeur associé au sein du BCG, responsable justement de tous ces sujets. Climat et Sustainability au sein de BCG Paris. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.